Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est désormais une réalité et vous le savez, l'épidémie est à nouveau très active dans notre pays. Nous devons apprendre à vivre avec le virus.
Le coronavirus toujours très actif, Nice et Lyon ont jusqu'à samedi pour définir à leur tour des mesures de restriction, annonce ce soir donc d'Olivier Véran.
Oui, le ministre de la Santé précise également les nouvelles règles pour les tests des personnes prioritaires, ce sera de 8h à 14h.
À Béthune, c'est tout le bassin d'emploi désormais qui s'inquiète des répercussions de la fermeture de l'usine Bridgestone. D'autres salariés de la région sont venus soutenir aujourd'hui leurs collègues.
Notre invité dans le journal, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui appelait aujourd'hui à manifester. Malgré la tension sociale de cette rentrée, la mobilisation a été faible.
Un mois et demi après l'assassinat de 6 humanitaires français au Niger, une revendication ce soir, elle vient du groupe État islamique.
Le Tour de France, Primoz Roglic toujours en jaune à 3 jours de l'arrivée à Paris.
Enfin, la Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,69% à 5039 points.
Et puis la tendance météo avec vous Anissa, les nuages arrivent ?
Oui, ils arrivent doucement mais sûrement par l'ouest demain avec tout de même de nombreuses régions qui seront encore sous le soleil. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était un discours très attendu alors que les critiques se multiplient ces derniers jours sur la gestion de la crise sanitaire du Covid. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point ce soir, Victor Dolande. Il confirme avec beaucoup de solennité que la situation épidémique est inquiétante.
Oui, Olivier Véran a expliqué à plusieurs reprises que la circulation du virus était très active sur l'ensemble du territoire. Deux chiffres cités par le ministre de la Santé pour comprendre l'évolution de l'épidémie. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, il est en hausse constante. Il est actuellement de 83 pour 100 000 habitants, contre 10 pour 100 000 habitants à la fin du mois de juillet. Et cette circulation active a des conséquences, comme l'a rappelé Olivier Véran.
53 départements ont dépassé ce seuil et sont donc classés dans cette fameuse zone de circulation active du virus. Et donc une circulation plus active du virus finit forcément par se traduire par davantage d'hospitalisations et par davantage de cas graves en réanimation.
L'épidémie gagne du terrain, c'est une réalité, a martelé Olivier Véran, renvoyant les Français à un effort collectif. Si chacun fait un effort dans les gestes barrières, on peut faire reculer le virus. Il a également ciblé les régions qui inquiètent particulièrement, la région PACA, à Bordeaux et en Guadeloupe, mais aussi, et c'est nouveau, Lyon et Nice, deux métropoles qui vont devoir durcir leurs mesures contre le coronavirus. Les autorités locales devront d'ailleurs faire des propositions au gouvernement d'ici samedi pour endiguer l'épidémie.
Autre point clé, Victor Dolande, sur lequel le ministre de la Santé était très attendu, la question de la priorisation des tests en laboratoire. Et désormais, la réponse est assez claire.
Oui, il a rappelé que la France avait réalisé 1,2 million de tests la semaine dernière, ce qui place notre pays parmi les nations qui testent le plus. Mais pour essayer de diminuer les temps d'attente pour obtenir les résultats, Olivier Véran a assuré que deux innovations, les tests antigéniques et les tests salivaires, seraient disponibles très bientôt et elles seraient d'une très grande aide.
Dans l'attente des recommandations des autorités scientifiques, nous avons autorisé et initié des expérimentations. Sans attendre, nous avons également passé des premières commandes à hauteur de 5 millions de tests antigéniques qui seront arrivés d'ici à début octobre. Nous travaillons à une stratégie de déploiement et j'ai fait le choix de préparer cette stratégie en collaboration étroite avec mon homologue allemand qui est ainsi sur la même trajectoire que nous.
Par ailleurs, des nouveaux centres de dépistage seront installés dans plusieurs grandes villes avec des créneaux pour les patients prioritaires de 8h à 14h. Enfin, Olivier Véran a également précisé que les enfants se contaminaient peu entre eux et qu'ils contaminaient peu les adultes. En conséquence, la continuité pédagogique est une priorité pour le gouvernement. Comprenez, on ne va pas fermer des classes à chaque cas positif. Enfin, il a adressé un dernier message aux personnes âgées, les personnes les plus vulnérables face à la maladie. Continuez vos efforts et réduisez au maximum vos contacts, a-t-il demandé.
Merci Victor pour ce compte-rendu précis. Dans l'actualité également, après l'assassinat de 6 humanitaires français le 9 août dernier au Niger, une revendication aujourd'hui du groupe État islamique. On vient de l'apprendre, Johanna Chabas.
Oui, jusque-là, on ne savait pas qui était responsable de cette attaque. Impossible de l'attribuer parce que de nombreux groupes circulent dans la région. Donc difficile jusqu'à cette revendication de connaître les auteurs. C'est maintenant chose faite. Le groupe État islamique affirme avoir assassiné assassiné ses 8 humanitaires au Niger au début du mois. Parmi ses victimes, rappelez-vous, 6 Français, des jeunes âgés de 25 à 30 ans, tués avec leur guide et leur chauffeur nigérien. Ces humanitaires étaient présents au nom de l'ONG Acted. C'est près d'une réserve de girafes que les assaillants sont arrivés à moto. Ils ont tiré sur le groupe et égorgé une des personnes qui avait réussi à s'enfuir. L'État islamique, dans sa revendication publiée par son organe de propagande, parle d'une attaque éclair, photo des victimes à la pluie. La publication a été authentifiée par de nombreuses sources, dont l'organisme américain CITE, expert de la question.
Merci Johanna Chabas.
Bruno Le Maire réagit à son tour aujourd'hui à la fermeture de l'usine de Bridgestone à Béthune. Le ministre de l'économie parle d'une décision révoltante et assure que le gouvernement va se battre pour trouver une solution.
Sur place, c'est évidemment toujours l'indignation 24 heures après cette annonce. Aujourd'hui, d'autres salariés de la région sont d'ailleurs venus soutenir leurs collègues de Bridgestone. 863 emplois, on le rappelle, sont menacés.
Sur place, notre correspondant Lionel Gougelot a rencontré Jérémy qui travaille dans la métallurgie. Comme les autres, il est venu dire son inquiétude si cette usine ferme. C'est tout le bassin d'emploi qui est menacé.
Ça nous fait vraiment peur parce que nous, on est dans une situation, notre groupe aussi n'est pas très bien. Puis là, quand on a vu ça, que Bridgestone fermait, on était obligé de venir aider nos collègues parce qu'on sait que ça peut nous arriver à nous. Aujourd'hui, c'est Bridgestone, ça peut être demain notre entreprise, ça peut être après-demain une autre entreprise. Donc on va faire quoi, nous les salariés? Et on va... Donc si on ne les défend pas là maintenant, on ne les défendra jamais. Tous les jeunes qui travaillent ici, de Béthune et tout ça, ils vont se retrouver au chômage. Toutes les boîtes d'intérim, toutes les entreprises extérieures, les sous-traitants, c'est des petites entreprises, ils ne vont pas tenir le coup. Avec le Covid déjà, plus Bridgestone qui ferme, ça va fermer et ça va être ainsi de suite. Et c'est que le début. Hein. Si on laisse faire, c'est que le début.
Avec nous dans ce journal, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonsoir, monsieur Martinez.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, c'était votre rentrée sociale, appel à la grève, appel à manifester contre les suppressions d'emplois à Béthune, mais aussi partout ailleurs où les annonces de restructuration se multiplient. On sent en ce moment cette tension sociale. Et pourtant, excusez-moi, monsieur Martinez, mais il n'y avait quand même pas énormément de monde qui a répondu à votre appel.
Oui, c'est un point de vue. Il y a eu une mobilisation qui était plus qu'indispensable aujourd'hui et le sujet que vous venez de passer le démontre. Est-ce qu'on laisse faire ces plans de suppression d'emplois ou est-ce qu'on réagit? Nous avons choisi de réagir et c'est une première pour cette rentrée et qui en appellera d'autres.
Vous saluez, monsieur Martinez, l'action et la prise de parole du gouvernement qui a été très ferme à l'endroit des dirigeants de l'entreprise Bridgestone.
Mais on ne demande plus des paroles fermes du gouvernement. On en a déjà eu sur, je ne vais pas vous citer toutes les entreprises qui ont donné lieu à de belles paroles du gouvernement. Maintenant, on attend des actes. Et c'est pourquoi cette journée de mobilisation a été importante, parce que le plan de relance proposé par le gouvernement, est-ce que c'est des nouvelles aides au gouvernement, comme ça a été fait pour Bridgestone pour après en arriver là, ou est-ce que c'est des aides conditionnées avec demande d'engagement des entreprises, de non seulement de maintenir l'emploi, mais de développer, d'investir, parce que c'est le problème qui est posé,
oui,
à Bridgestone.
Oui. Et vous êtes favorable à l'interdiction des suppressions d'emplois, comme ça a été dit à un moment dans le débat public, et est-ce que les pouvoirs publics en ont vraiment le moyen?
Mais quand il s'agit d'argent public, parce que est-ce que le gouvernement laisse filer ou est-ce qu'il est ferme? Mais dans les actes, oui, il faut, avant des mesures de licenciement telles que c'est appliqué chez Bridgestone, mais ailleurs aussi, il faut travailler des solutions alternatives. Or là, ce qu'on fait, c'est on licencie d'abord et on discute après. Et donc, je le répète, il faut des actes forts du gouvernement. Par exemple, chez Bridgestone comme ailleurs, l'activité que la direction veut supprimer, oui, elle va être transférée ailleurs, dans des usines où il y a une surcharge de travail. Eh bien, il faut dire, il faut une meilleure répartition de la charge de travail.
Entendu, monsieur Martinez.
Merci beaucoup, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, d'avoir été avec nous ce soir dans ce journal de 18h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Carole Ferry. C'est un double assassinat qui avait provoqué la sidération cet été dans le Val-de-Marne.
Un homme, une femme, criblés de balles sur un lit à Saint-Maur-des-Fossés. La piste de l'ex-mari avait immédiatement été écartée. Il vivait aux États-Unis Et pourtant, c'est bien lui qui avait fait l'aller-retour depuis le Colorado pour assassiner la mère de ses trois enfants. La France, Guillaume Bier, vient de demander l'extradition de cet Américain.
Oui, son alibi n'a pas tenu bien longtemps face aux investigations de la brigade criminelle. C'est lui qui est suspecté d'avoir commis ce double assassinat prémédité outre-Atlantique. Fin juillet, il aurait prétexté un rendez-vous professionnel pour quitter le Colorado où il vit, faire l'aller-retour à Paris. Avant de partir, il achète un pistolet, mais il ne le glisse pas dans sa valise. Il le fait expédier vers la France en poste restante dans la capitale, où il a tranquillement récupéré le colis. Direction Saint-Maur-des-Fossés, l'appartement de son ex-femme dont il avait gardé le double des clés. Et là, l'Américain se serait acharné sur la mère de ses enfants, tuant au passage l'homme qu'elle fréquentait depuis quelques jours à peine, un quadra sans histoire qui a eu le malheur de se trouver là au pire moment. Sitôt le double meurtre commis, le suspect s'est débarrassé de son arme et est vite rentré aux États-Unis à 8000 km de la scène de crime. Il se pensait à l'abri des poursuites, mais l'enquête s'est vite recentrée sur lui. Arrêté et interrogé par la police américaine, il serait passé aux aveux. Les autorités françaises ont donc demandé aux Américains son extradition afin qu'ils puissent répondre de ses actes devant la justice.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Après la saisie de l'agence du médicament, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour mise en danger d'autrui.
Oui, elle vise ces médecins qui prescrivent sans autorisation des antibiotiques ou autres anti-infectieux pour tenter de guérir, disent-ils, des enfants autistes.
La NSM avait alerté dès le début de la semaine. Ces traitements n'ont jamais prouvé leur efficacité et peuvent se révéler dangereux. Et puis le gouvernement annonce qu'il va saisir la justice à l'encontre des clips du rappeur Freeze Corleone,
c'est italien. Des clips jugés antisémites et négationnistes. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Parmi les propos visés, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30 ou encore tous les jours rien à foutre de la Shoah. Voilà.
Et dans un tweet publié la nuit dernière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait également appelé Facebook et Twitter à ne pas diffuser, je cite, ces immondices. Nous partons maintenant sur le Tour de France avec cette dernière étape dans les Alpes aujourd'hui et cette image assez inédite, Marguerite Lefebvre, deux coureurs qui ont passé la ligne d'arrivée bras dessus, bras dessous.
Oui, image assez surprenante hein, tout à l'heure. Deux coureurs de l'équipe Ineos, deux coéquipiers qui se sont entendus dans le final et qui sont donc arrivés ensemble à La Roche-sur-Foron, tout sourire, main dans la main. Alors comme il faut bien un vainqueur, c'est Michał Kwiatkowski, le Polonais, qui remporte officiellement l'étape. Son vélo est arrivé juste devant celui de l'Équatorien Richard Carapaz, qui lui récupère le maillot à poids de meilleur grimpeur. Une belle revanche pour les deux hommes qui étaient venus avec d'autres ambitions hein, sur ce tour. Ils devaient aider leur leader Egan Bernal à remporter un deuxième Tour de France. Mais après l'abandon du Colombien, l'équipe s'est donc donné ce nouvel objectif, cette victoire se doubler dans la dernière étape de montagne dans les Alpes. Au classement général, les favoris, eux, se sont un peu attaqués tout à l'heure, notamment dans la terrible montée vers le plateau des Glières, classé hors catégorie. Il y a eu des attaques, mais pas de changement sur le podium. Primoz Roglic est toujours maillot jaune devant son jeune compatriote Tadej Pogacar.
Merci Marguerite Lefebvre qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés d'Axel May.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Avec Anissa, on parle de la météo maintenant et je suis très en colère contre vous Anissa.
Ah bah alors, il n'y a pas de quoi.
Parce que le temps commence à se dégrader et depuis le début de la semaine, vous me dites, le beau temps va tenir toute la semaine. Bah, il faudrait savoir mademoiselle Anissa.
Ça va tenir toute la semaine, je tiens ma promesse. La semaine, c'est jusqu'à vendredi soir. Hein.
Oui.
Je vous avais dit, je ne réponds plus de rien pour le week-end.
C'est vrai.
Et bah, demain, ça commence tout juste à se dégrader. C'est-à-dire que dans le sud-ouest, nous aurons des nuages nombreux en début de journée avec sur les Pyrénées et le Pays Basque des petites averses. Ailleurs, le soleil est bien au rendez-vous, ça sera donc une très belle journée. Et dans l'après-midi, la dégradation est un petit peu plus nette, avec toujours sur les Pyrénées et la façade atlantique des orages, localement forts, attention, avec du vent et de la grêle. Mais demain sera globalement encore une journée estivale, sauf sur ce petit quart sud-ouest. Les températures, elles sont agréables et respirables sur la moitié nord, avec 20 à 23 degrés sur les côtes de la Manche, 25 à 30 degrés au nord de la Loire. Nous aurons 27 à Lille, 28 à Strasbourg, 29 à Nice et Biarritz et 30 à Paris. Et dans le sud, il fait toujours très chaud, trop chaud, 30 à Marseille, 32 à Lyon, 33 à Montluçon et 34 à Limoges. C'est dans la nuit de vendredi à samedi que la dégradation va vraiment arriver pour un week-end pourri.
Pour un week-end pourri.
Voilà.
Bon,
comme ça, c'est clair,
bien,
je vous prépare psychologiquement.
Et on reste quand même au-dessus des normales de saison, là, parce que les températures paraissent assez élevées pour le
On est encore presque 10 degrés au-dessus des normales de saison. La semaine prochaine, ça va vraiment chuter. Pour vous dire, allez, je vous prépare là aussi psychologiquement. Ah. On aura 30 degrés demain à Paris, je prends Paris comme référence. Jeudi prochain, on aura 17 l'après-midi.
Ah oui, 17. Ah oui, voilà.
C'est moitié moins.
Ressortez les pulls. Merci Anissa, à tout à l'heure.